おかしいおかしい、
bonsoir et très heureux de vous retrouver une fois de plus pour faire la lecture de l'actualité marquante de cette semaine, notamment pour vous qui avez raté l'une ou l'autre information. Trois sujets seront donc traités au cours de cette tribune de la presse. Clôture de la session extraordinaire du Parlement, avec notamment l'exécution par l'Assemblée nationale des arrêts de la Cour suprême de justice, invalidant 18 députés nationaux, sans oublier l'adoption du rapport Kaimba. Notre deuxième sujet, c'est la visite de la présidente suisse, Micheline Calmy-Rey. Enfin, la MONUC s'est inquiété cette semaine du port des tenues militaires similaires à celles de l'armée rwandaise par les troupes mixtes de Laurent Kunda. Comme la semaine dernière, trois confrères ont accepté de commenter avec nous cette actualité. Stéphane Pierre Kambinji, directeur des informations de Radio Zénith de Chikapa au Kasaï Occidental, Emmanuel Matila, rédacteur en chef du journal Le Révélateur, paraissant ici à Kinshasa, et Adrien Banda, journaliste au sein de Radio-Télé Groupe L'Avenir. L'Assemblée nationale a clôturé mercredi dernier ici à Kinshasa sa session extraordinaire. Parmi les questions réglées figurent entre autres celles de 18 députés invalidés par la Cour suprême de justice. Ils ont été remplacés ce même mercredi. Cependant, l'Assemblée nationale dit avoir exécuté les arrêts de la Cour suprême de justice par respect pour la Constitution. Cela, malgré certaines irrégularités constatées. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, appelle à la réforme de la justice congolaise. Le président de la Chambre basse du Parlement est interrogé par notre confrère Georges Kamujoba.
On ne doit pas changer le nom des gens, mal écrire le nom des gens, en disant que parce qu'il s'agit des arrêts de la Cour suprême de justice, on ne peut plus corriger. Comme nous ne pouvons pas le faire, on demande à la Cour suprême de justice de le faire. Donc nous invitons le président à prendre ses responsabilités en tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, de nous inviter autour de lui pour qu'ensemble nous voyons quel type de réformes nous devons opérer pour la justice de notre pays.
Côté ambiance, il faut noter que certains députés nationaux ont boudé leurs nouveaux collègues lors de leur présentation devant l'Assemblée nationale. Réponse du berger à la bergère, la réaction de la Cour suprême de justice ne s'est pas fait attendre. Indignation et consternation exprimée hier jeudi à la Haute Cour. Dans une déclaration lue par son président à la presse, la Haute Cour affirme que ces arrêts sont exécutoires, opposables à tous et ne font appel à aucun recours. Aussi, les magistrats de la Haute Cour et du parquet général de la République déplorent les propos qualifiés de discourtois de la part des députés nationaux, ce qui remet en cause, selon la Haute Cour, l'indépendance de la magistrature. Quelques points saillants de cette déclaration par le président de la Cour suprême de justice, le magistrat Kalonda Keleoma, est au micro de notre confrère Jeff Ngoy.
Les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République constatent avec regret et indignation ce qui suit. L'Assemblée nationale s'est érigée en tribunal d'exception, a censuré les arrêts de la Cour suprême de justice, a vilipendé et jugé les magistrats de la Cour suprême et a finalement pris la résolution de constituer une commission interinstitutionnelle pour notamment sanctionner les magistrats de la Cour suprême de justice. Il déplore des propos discourtois proférés à l'endroit des membres d'une autre institution. Il relève que l'indépendance du pouvoir judiciaire soit remise en cause.
Il faut signaler donc que le magistrat Kalonda Keleoma parlait au nom du premier vice-président de la Cour suprême de justice. Je me tourne d'abord vers vous, Adrien Banda. Vous n'étiez pas là la semaine passée. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Groupe L'Avenir. D'abord, votre réaction par rapport à ce, si je peux l'appeler, polémique entre la Cour suprême de justice et l'Assemblée nationale.
Bah, écoute, vous venez de lâcher le terme, polémique. Entre deux institutions de la République, des institutions qui se voudraient être parmi les plus respectueuses. Donc pour la refondation de l'État, mais malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu. Je crois que les uns et les autres doivent quand même mettre un peu d'eau dans leur vin, et je crois que quand le président de l'Assemblée nationale est en train de dire qu'il faut qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle, je crois qu'il n'a pas tort, pas du tout, parce que une institution institution comme la Cour suprême de justice, en fait, doit prendre des mesures, des arrêts qui ne doivent souffrir d'aucune discussion. Ils l'ont dit, peut-être, oui. Mais aussi que ça soit réellement des arrêts qui sont conformes et à la bonne, comment je peux dire, il y a des mots qui me manquent.
À la loi électorale,
à la loi électorale, parce qu'il s'agit évidemment d'un contentieux électoral,
et aux normes,
mais aux normes constitutionnelles, et que, pour que ça ne soit pas du tout discuté après.
Je vous rappelle, ils ont sorti cet arrêt 9 mois après le délai qui leur était imparti.
Ben voilà. Bon, écoute, quand les autres sont en train de dire que bon, ça viole l'indépendance de la magistrature, de la justice, etc., etc., mais je crois que par rapport à notre justice dans notre pays, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On l'a vu pendant les élections, mais on l'a vu aussi pour d'autres dossiers. Donc, si nous voulons réellement que demain nous puissions nous regarder vraiment en face et que nous ne puissions pas rougir par rapport à notre Cour suprême de justice, je crois que nous pouvons accepter qu'il y ait cette réunion interinstitutionnelle, mais que aussi les magistrats se remettent en cause. Sinon, bah écoute, on va droit au mur.
Au niveau de la Cour suprême, Emmanuel Makila, vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Révélateur, Paris Saint-Kinshasa, mais au niveau de la Cour suprême de justice, on dirait que cette conférence appelle de tous ses voeux le président de l'Assemblée nationale, on dirait que ça paraît comme une agression.
Non, pas du tout. Écoutez, la Cour suprême de justice a tendance à faire peur aux gens et quand on va dire non, outrage à magistrat, patati patata, tout un ensemble de mots compliqués. Mais je vous dis, si nous sommes en démocratie, il faudra que la Cour suprême de justice accepte aussi des remarques de part et d'autre. Et est-ce que le procureur général de la République croit que tout est dans l'ordre dans son institution? Je ne pense pas. Il y a des magistrats ripoux. On a vu avec l'affaire qui a opposé l'OFIDA au ministre. Il y a des magistrats qui ont signé des documents sans tenir compte de ce qu'était l'OFIDA, de ce qu'était le personnel. Il y a des magistrats ripoux. On voit avec la démolition, et ainsi de suite. Les exemples sont légion. Là, je ne reviens pas. On doit dire que les valses à laquelle on vient d'assister maintenant, c'est un problème sérieux. 9 mois après, alors que d'autres avaient déjà commencé à l'apprentissage de la démocratie, voilà des nouveaux 18 autres députés qui viennent d'arriver et qui ont même été boudés. Alors, quand il donne son alibi qu'il y avait l'incendie, mais moi je pense que tout de suite après cet incendie, ils ont statué sur la requête de Jean-Pierre Bemba. Donc, tout ça, c'est un ensemble de problèmes qu'on ne peut pas expliquer. Et qui sont les bénéficiaires? Si vous regardez très bien le profil de tous les bénéficiaires, ça commence à poser problème.
C'est-à-dire?
Ça signifie que la majorité des bénéficiaires sont d'une certaine obédience politique.
Laquelle alors?
Du président de la République.
Et voilà,
ça pose problème.
Nous allons nous rendre directement à Chicapa, au Kassai Occidental, d'où intervient au téléphone notre confrère Sosten Pierre Sambinji. Vous êtes directeur des informations de Radio Zénith. J'ai devant moi le journal La Référence Plus du mercredi 18 juillet 2007 avec à la une le titre suivant. Après 8 heures de débat hier au Palais du Peuple, Caméry déjoue la crise institutionnelle. Concernant donc l'invalidation de 18 députés par la Cour suprême de justice, est-ce que vous êtes du même avis que le journal La Référence Plus?
Non, merci Claude, je suis de cet avis-là. D'ailleurs, quand je suis en direct à la télévision, le débat au niveau de l'Assemblée nationale, j'étais en train de me dire que certains honorables députés avaient tendance à faire référence à ce qu'on a dit en France, le pouvoir avec le pouvoir, alors que dans notre constitution, au terme de l'article 151, je n'avais pas ce mandat. Mais au-delà de tout ça, moi je pense que l'Assemblée nationale a joué son jeu, vient de donner une notion de démocratie, de respect de loi à la Cour suprême de justice, tout en aux magistrats de créer les conséquences que ça pose. Tout à l'heure, par exemple, j'ai suivi Emmanuel dire que la réunion à laquelle appelle le président de l'Assemblée nationale, le magistrat de la Cour suprême, il y a peur de quoi? Il faudrait qu'on se garde droit dans les yeux, qu'on dise certaines vérités pour consolider la démocratie au sein de notre pays. Je pense que l'Assemblée nationale a des changements, je le répète, et que Vital Caméré là-dessus mérite quand même des applaudissements.
Je me tourne encore vers vous, Adrien Vanda. On a quand même assisté à ce côté ambiance, hein, les nouveaux députés nationaux invalidés à l'Assemblée nationale ont été quelque peu boudés par les collègues qui sont déjà là depuis longtemps à l'Assemblée nationale. Comment interpréter cela alors que c'est eux-mêmes qui ont accepté à ce que finalement cet arrêt de la Cour suprême soit exécuté?
Bon, écoute, je ne saurais pas trop entrer dans les détails. Vous dites côté ambiance, mais je crois que bon, quand on est resté avec des gens pendant 5, 6, 10 mois ensemble, on a déjà pris un certain nombre d'habitudes et que on dise que bon, il faille les changer, les valider par d'autres, quand bien même sur base de ce que la Cour suprême de justice, par rapport donc, à l'arrêt de la Cour suprême de justice, je crois que bon, ce genre de ressentiment, je ne sais pas si le mot est peut-être trop fort, ne m'étonne pas. Mais bon, est-ce que il faut vraiment prendre ça pour du rejet? Bon, je ne sais pas, je crois plutôt que non. Mais que bon, parce qu'ils ont été validés, mais avec quand même beaucoup de problèmes et tout, je crois que c'est une petite répulsion normale et que bon,
finalement, ils ont agi sans leur volonté.
C'est comme si je suis entré par réfraction un peu, par réfraction, mais enfin, mais je reste convaincu qu'au fil du jour, bon, ce sentiment l'a passé et que si les autres sont aussi performants dans les interventions, etc., que ça va disparaître.
À part l'invalidation de 18 députés nationaux, mercredi dernier toujours à la Chambre basse du Parlement, la plénière a aussi examiné et adopté le rapport de la commission Lumbala. Cette commission était chargée d'examiner les différents frontaliers entre la RDC et l'Angola au sujet de quelques localités de Kaimba dans la province du Bandundu. Les conclusions de ce rapport concrédisent les déclarations du gouvernement congolais à ce sujet. Selon ce rapport, les villages concernés par ce conflit frontaliers sont des villages congolais habités par des citoyens congolais et pour l'instant, ces villages sont sous contrôle des forces angolaises qui les ont investis. Innocent Olenga, notre confrère, nous en parlait depuis le Palais du Peuple.
L'audition du rapport de la commission parlementaire chargée du dossier Kaimba a pris près de 3 heures du temps. Ce rapport de 60 pages établit d'une manière indéniable une ouverte à tous les éléments, toutes les données géographiques, naturelles et artificielles d'une partie du territoire congolais dans la province de Bandundu, sous l'empire d'un pays étranger, l'Angola, qui a issu son drapeau national. Ainsi, pour les députés nationaux, le gouvernement congolais a privilégié le mensonge et finit de profiter de cette lettre dans la défense du territoire national, ce qui se traduit par la haute trahison. D'où l'exigence d'interpeller le ministre en chef de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale pour se justifier. À la place du ministre de l'Intérieur, si faire d'autres députés, il faut interpeller le premier ministre chef du gouvernement du fait que le gouvernement avait donné sa position sur ces différents frontaliers et par là, c'est sa responsabilité qui est engagée. Les débats se déroulent encore. Dans peu de temps, nous saurons qui du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur sera interpellé devant l'Assemblée nationale pour se justifier de ce que les députés qualifient déjà de haute trahison.
Voilà, donc c'est un élément qui était passé mercredi dernier. Alors, je me tourne vers vous, Emmanuel Makila. Comment vous interprétez ça? Qu'est-ce qu'il faudrait interpeller dans ce dossier que les honorables députés nationaux ont qualifié d'ailleurs de haute trahison parce qu'ils estiment que ces localités appartiennent à la République démocratique du Congo, mais elles sont pour l'instant occupées par l'Angola et le gouvernement avait, dans une déclaration, affirmé que ces localités appartenaient et le bien à l'Angola.
Bon, l'affaire Kaimba traduit les contradictions qu'il y a au sommet de l'État. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, et selon vraiment la réalité, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit être interpellé. Probablement, dans d'autres
cas,
parce que c'est lui qui a le premier déclaré ouvertement qu'il n'y avait pas de problème avec l'Angola. C'est lui qui avait déclaré et il était sur place à Kaimba, à la frontière. À son retour de Kaimba, il a dit qu'il n'y avait pas de problème, les villages appartenaient à l'Angola. Donc, normalement, dans un état de droit, c'est l'impeachment qu'on doit commencer à monter contre lui, parce que c'est terrible, c'est grave, c'est qu'il a eu des allégations. Et il a dit ça au moment où, après que le Parlement ait décidé d'envoyer une commission à Kayemba. Peut-être le gouvernement devrait attendre un tout petit peu pour que, ensemble avec le Parlement, qu'il puisse mettre ensemble les idées.
Et ici, excusez-moi si je ne trompe pas, le président de la République avait lui-même déclaré qu'il attendait le rapport de la commission parlementaire qui était allée enquêter.
Oui, exactement. Mais le jour où le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas de problème, la séance du travail était dirigée par le président de la République, si je me rappelle bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Il y a eu ce problème, les interrogations des gens, pourquoi la déclaration hâtive du gouvernement? C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on était en train de cacher à la population. Et j'ai suivi par la suite, je ne sais pas si vous avez suivi, le ministre des Mines, le vice-ministre des Mines de l'Angola, un certain monsieur Carlos Sumbula, qui a déclaré une nouvelle thèse farfelue vraiment de droit de poursuite géologique. Ça signifie que tous les diamants qui sont en RDC, qui coulent qui sont charriés par le Kwango, provenaient des hauts plateaux angolais, alors il y avait un droit de poursuite sur les alluvions.
Ça, c'est un terme nouveau que j'entends.
Oui, moi aussi, c'était terrible, donc le droit de poursuite géologique sur les alluvions riches en diamants. Alors, hier soir, j'ai suivi, donc, après le sitting qui a été réalisé par des ONG concernant les expulsions, l'ambassadeur de l'Angola, il a répété, il a dit ça clairement, mais en fait, en d'autres termes, il dit que tous les shows qu'on a vécu ce jour-là au Palais du Peuple, à l'hémicycle, c'était juste pour que les gens à la cité voient que les gens sont passés à la télévision. Vous vous rendez compte que c'est pas sérieux tout ça.
Sostin, Pierre Kambindje, est-ce que vous êtes du même avis concernant ce dossier Kayemba?
Monsieur Kayemba, du même avis, peut-être légèrement, je dirais le contraire. Je pense que c'est le ministre qui doit aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que là, manifestement, ça démontre que le chef du gouvernement ne contrôle pas le foot. On a suivi à l'époque qu'il y a une polémique entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères et ceux de l'affaire Kayemba. Comment est-ce qu'on a un chef de famille qui est incapable de contrôler le comportement de ses enfants? Le ministre de l'Intérieur, c'est une sortie dans la presse, c'est des déclarations. On a même le Parlement. Une commission du Parlement. Mais finalement, la crainte qu'on avait émise lors du débat à l'Assemblée nationale, le débat consécutif aux arrêts de la Cour suprême, selon laquelle il ne fallait pas qu'on cherche à assainir nos institutions pour l'assainir aux institutions. Mais là, il y a encore un temps de stabiliser les institutions. L'Assemblée nationale donne une position, le gouvernement a une autre position. Donc, pourquoi le ministre devrait aller s'expliquer au nom de quelle institution le ministre de l'Intérieur a-t-il pris parole? Si c'est le nom du gouvernement, la position du gouvernement a été expliquée. En dehors de ça, le comportement de l'ambassade de l'Angola, moi je pense aussi que le ministre des Affaires étrangères devrait convoquer le diplomate angolais pour lui démontrer qu'il est en force à tout ça. Il doit avoir des choses comme minimum de respect pour le Congolais, parce que les réputations que l'ambassadeur a été tient sont. Ça démontre que la RDC est un territoire conquis par les Angolais, même si aujourd'hui on dit qu'ils ont une puissance militaire supérieure à la nôtre. C'est gratuit qu'ils tentent de se faire des propos avec les diplomates. Je crois que le Premier ministre devrait aller à l'Assemblée nationale pour expliquer sur le comportement de son ministre de l'Intérieur.
Adrien Vanda, votre réaction par rapport à ce dossier angolais qui ne met pas tout le monde dans l'unanimité, apparemment.
Bon, je crois que c'est un dossier qu'il faut plutôt analyser froidement, beaucoup plus froidement que ça. D'autant plus que si la passion politicienne y entre, bon, je crois qu'on commence à voir tout ça sous certains prismes. En tout cas, selon moi, je crois que pour un pays qui se veut un état de droit et tout, le gouvernement ne pouvait pas faire une déclaration en attendant, pendant qu'il y avait une autre commission d'enquête qui était sur le terrain, même si c'était d'une autre institution. Parce que je crois que le pays doit parler d'une et d'une même voix. On ne peut pas avoir déjà des sons discordantes, ce qui donne l'avantage, évidemment, à la partie adverse de pouvoir brandir les biceps. Ça, c'est une première chose. De deux, en fait, bon, nous le savons aussi, il n'est pas dit que nécessairement un ministre, parce qu'il fait partie d'un gouvernement, doit nécessairement avoir les mêmes avis. Mais néanmoins, les déclarations qu'il fait pour
le compte du gouvernement doit obtenir un certain aval. Donc je crois qu'il y a eu un certain dysfonctionnement déjà au niveau même du gouvernement quand on a eu à faire ces déclarations. Deuxième chose, il y a la commission d'enquête parlementaire qui est descendue sur le terrain. En fait, ce sont des parlementaires, notamment des gens du terroir qui connaissent très bien
les différentes composantes,
qui connaissent très bien leur coin et que bon, et qui ont beaucoup plus de facilité peut-être pour pouvoir parler avec notamment la population locale. Et je vois qu'à ce moment-là, il y a vraiment, vraiment, vraiment problème. Alors, pour pouvoir trancher une fois pour toutes, ces frontières-là, ce n'est pas nous, les pays indépendants qui l'avions tracé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il serait intéressant de demander aux deux puissances coloniales, qui sont le Portugal et la Belgique, de pouvoir nous aider à trancher.
Et je crois qu'une demande a déjà été faite dans ce sens par les autorités congolaises aux autorités de la Belgique et du Portugal. Ouais,
je termine d'autant plus que nous savons que les Angolais ont eu à utiliser les biceps pendant que ces différentes commissions circulaient par là, ils ont utilisé les biceps.
Donc, c'est-à-dire
la force, évidemment, pour empêcher, vous n'allez pas à tel endroit parce que sinon, vous pouvez aller là-bas, sinon, vous foutez le camp et tout. Alors que, bon, nous, est-ce que nous avions aussi un certain nombre aujourd'hui de la technologie voulue pour pouvoir être clair et précis? Si, je crois que non. Mais pour pouvoir trancher une fois pour toutes, il faudra aussi que l'Angola accepte qu'il y ait un arbitrage tout à fait désintéressé, que les deux puissances coloniales puissent nous aider à régler ce problème. Une fois pour toutes.
Emmanuel Makila, le rapport de la commission Lumbala, c'est l'honorable député qui avait conduit cette délégation qui menait cette enquête parlementaire, a fait des recommandations au gouvernement. Mais qu'est-ce que ces recommandations pourraient changer dans la mesure où le gouvernement s'était déjà prononcé sur ce dossier?
Non, ça signifie que le gouvernement n'a pas prononcé une parole d'évangile. Il peut toujours revoir sa position. Je pense que le gouvernement est capable de faire amende honorable, d'autant plus qu'il est clair. Et si vous lisez le rapport, moi j'ai vu, il y a des mots qui sont utilisés dans ces rapports indéniables. Donc tous ces termes signifient que c'est vraiment l'absolu. Cette partie du territoire est occupée par l'Angola. C'est absolu. Le rapport est clair là-dessus. Et moi, je pense que en acceptant, parce qu'il semble qu'il y a des hésitations au niveau du gouvernement d'accepter que la Belgique et le Portugal apportent leur expertise.
Pourquoi, d'après vous?
Moi, je ne sais pas, parce que le gouvernement veut défendre sa position initiale. Mais je suis convaincu que en disant cela, quand la Belgique dit que c'est le ministre des Affaires étrangères belge qui l'a dit, que la Belgique pouvait apporter son expertise, ça signifie que la Belgique reconnaît qu'il y a problème, parce que la Belgique a déjà rencontré le même problème avec le Portugal à l'époque pendant la colonisation.
Encore faut-il que le partenaire aussi angolais puisse accepter les conclusions de cette commission, peut-être qui sera constituée de la Belgique et du Portugal.
Je pense bien que l'Angola va accepter, si l'Angola ne veut pas toujours continuer à utiliser sa force pour dire que bon, moi je vais faire le Rambo ici. Non, je pense que l'Angola est capable de s'asseoir et de réfléchir pour éviter que les tensions règnent dans la sous-région.
Sotène Pierre Kambindi, je rappelle que vous êtes directeur des informations de Radio Zénith à Tchikapa, d'où vous intervenez au téléphone. En une minute, s'il vous plaît, certains députés ont même parlé de haute trahison, le comportement du gouvernement qui a déclaré ces localités appartenant à l'Angola plutôt qu'à la RDC. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu fort?
Ce sont même ceux directement qui ont la conséquence de cette conclusion à laquelle certains généraux de Tibet sont arrivés. La conscience qui va être en train de faire trahison, si le gouvernement est démissionnaire, je ne vois pas en train de ce gouvernement va continuer à être là lorsqu'il est contribué par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont au gouvernement ont plus de fait que ceux qui sont à l'Assemblée nationale? Vous pensez que ceux qui sont allés sur la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui est descendu sur place à Kaïma, n'avait pas d'expert le nécessaire pour pouvoir établir ce que notre appel en plénière qui est le même du gouvernement. Je pense que la conséquence à tirer de cette conclusion de députés, c'est que le gouvernement doit démissionner, même dans l'idée qui est établie, c'est quand même certaines localités sont occupées par les tours angolaises, c'est que le gouvernement doit démissionner carrément. Et puis je voulais ajouter un petit élément juste en 30 secondes par rapport à ce que Abdi a dit tout à l'heure.
Rapidement.
C'est pas dit que l'Angolais veut déclarer la guerre à la RDC de manière
Mais l'Angola n'a pas, l'Angola ne l'a pas dit hein, qu'il voulait déclarer la guerre à la RDC.
Mais le gars, je le traduis en chaque fois. Il y a deux côtés. On est en train de se mettre dans le projet humain de Congolais de l'Angola. De l'autre côté, on retourne les localités. Finalement, c'est une provocation. On veut que quand le Congo démocratique va décider de chasser les tours l'Angolais qui occupent certaines localités entièrement. Lorsqu'on est arrivé, on va se prendre les émotions. C'est quoi la déclaration de guerre dans l'Angola?
Voilà, cette semaine s'est aussi caractérisée par la visite de la présidente de la Confédération suisse en RDC. Elle est aussi ministre des Affaires étrangères de cette confédération helvétique. La Suisse se dit prête à aider le gouvernement congolais à récupérer l'argent de ce président Mobutu Sese Seko qui se trouve dans ses banques. Madame Micheline Kalmiré l'a dit lundi dernier après un entretien avec son homologue congolais Joseph Kabila. L'argent en question avoisine les 6,5 millions de dollars américains, soit 8 millions de francs suisses. La présidente suisse attend que le gouvernement congolais désigne un représentant qui pourrait suivre ce dossier. Il était interrogé par notre confrère Georges Kamoujoba.
Les discussions sont en cours. D'après nous, l'argent devrait être en tout cas très majoritairement, voire en presque totalité, retourné à l'État congolais, au peuple congolais. La Suisse a gelé les avoirs Mobutu jusqu'à fin 2008 et nous en avons parlé parce que nous avons besoin d'un interlocuteur en Suisse. Mais sachez que la Suisse ne garde pas l'argent des potentats. Elle est un des rares pays à retourner cet argent. Nous considérons qu'il ne nous appartient pas. Et donc, nous souhaitons que l'affaire des fonds Mobutu puisse être réglée d'entente avec tous les acteurs dans cette affaire.
Je vais en reparler avec le président. Il est d'accord pour envoyer un représentant qui pourrait suivre l'affaire.
Nous lui avons demandé de bien vouloir envisager la désignation d'un représentant en Suisse pour que nous puissions traiter cette affaire.
Nous restons encore à Chica pour avec vous, Sosten Pierre Kambindji, puisque vous avez moins parlé par rapport à nos deux confrères qui sont ici au studio. D'abord, votre réaction par rapport à la déclaration de la présidente suisse sur la restitution de cet argent.
Bon, je salue la disponibilité de la Confédération de l'équipe à restituer cet argent à l'État congolais, mais je me peine. Au Nigeria, on a vu avec la fortune du chien dictateur, le général Sali Abacha, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais comment aujourd'hui, depuis que Mobutu a quitté le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais a été incapable de recenser les avoirs détournés du trésor public? C'est grave.
Et c'était aussi, excusez-moi, des centaines de millions de dollars, si je me trompe pas, que la Suisse a restitué au Nigeria.
Et des centaines de millions de dollars. Mais pour la RDC, on parle de 6 millions de dollars tout simplement. Moi, je crois que les Nigériens ont été réalistes. Ils avaient des experts qui sont allés rechercher cet argent, alors que les Congolais sont distraits par ce qui se fait dans notre propre pays, ne sont pas recherchés le fond. Et de fait, quand nous parlons du budget, j'avais parlé de l'encadrement des recettes. En voilà encore une preuve qu'il y a beaucoup d'argent qui traîne dans le domaine des projets, que si le gouvernement a des services de recherche, qui allait rechercher pour rassurer le texte de l'État congolais et besoin de nouveau le chantier. Je crois que si nous encore moins le gouvernement congolais devrait saisir la main au bord pour finalement suivre effectivement si le banque suisse le gagne du tout 6 millions de dollars sur les avoirs du feu dans les chambres de bouteille.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel pourrait mettre beaucoup plus d'accent dans la recherche de ces fonds qui appartiennent à la République démocratique du Congo, malgré le fait que le fils de Mobutu, Nzanga Mobutu, le fils de ce président Mobutu, Nzanga Mobutu, occupe quand même le deuxième poste après le Premier ministre?
Mais ça risque de constituer encore une boîte à pendant, comme ça, je ne sais pas si Zanga, qui est héritier de l'Égypte, du feu maréchal Mobutu, va le fait que la fortune avancée vers son papa, la fortune que la famille veut hériter, puisse revenir dans les mains de cette toute tête, de mettre encore les mains de cette fortune dans d'autres banques, et ne pas permettre à l'État de profiter de cette fortune. Ça risque de constituer un sérieux problème. Et si on ne sait pas ce que nous sommes, c'est que la coalition pouvoir voulait qu'elle pouvait constituer un élément pouvant mener à l'éclatement de la coalition de l'AMP.
Merci. Adrien Vanda, est-ce que vous êtes du même avis que Sosten Pierre Kambinde qui dit que le Nigeria était beaucoup plus sage et il avait des experts pour rechercher les différents fonds qu'avait caché l'ancien dictateur nigérian dans les différentes banques et ce qui a facilité qu'il puisse récupérer beaucoup plus d'argent que la RDC?
Je crois que c'est indéniable. La preuve est que même le montant nous a été dit par la présidente de la Confédération Helvétique. C'est pas nous qui avions dit non, mais madame, nous savons qu'à peu près c'est autant qu'il y a chez vous. C'est elle qui a dit voilà ce que vous avez, c'est ce que je peux mettre à votre disposition. Et nous n'avons qu'à dire amen. Bon, allons un peu au-delà, mais est-ce qu'il s'agit d'un problème entre la famille de l'ex-chef de l'État et le gouvernement en place, ou bien il s'agit d'un problème qu'il faut prendre simplement sur un plan tout à fait national, parce que notre ami Sosten a cité Dianga Mobutu, est-ce qu'il ne pourra pas avoir des ressentiments par rapport à ça? Bon, je ne sais pas, mais moi je crois qu'on faut qu'on situe vraiment ce problème-là au niveau de l'État et qu'on commence un peu à arrêter à avoir à tout moment famille là-dedans, parce que en participant aux élections, en acceptant d'être dans la coalition avec Joseph Kabila et en acceptant le poste qu'il occupe aujourd'hui au gouvernement, je crois que Dianga Mobutu doit être conséquent par rapport à tout ce qui peut arriver.
Emmanuel Makila, qu'est-ce que vous pensez que le Congo pourrait, s'il mettait un peu plus de moyens, un peu plus de volonté, récupérer un peu plus d'argent?
Ah oui, je pense que
non seulement de l'Afrique, mais peut-être ailleurs aussi.
Exactement, parce que moi, ça m'étonne que Mobutu n'avait que 6 millions de dollars en Suisse. Ça, c'est vraiment surprenant. Et dans l'opinion, les gens disent que c'est vraiment ridicule et qu'on commence même à parler des arrangements.
On n'a entendu aucun dirigeant politique congolais dire que non, c'est insuffisant, on pense que Mobutu avait un peu plus d'argent. Personne.
Mais vraiment, je suis désolé de le dire ici qu'il y a des problèmes avec nos politiciens. Et on ne voit pas des politiciens qui sautent sur des occasions pareilles pour parler. Donc c'est toujours le confinement, les silences, les gens ne parlent pas. Les politiciens doivent parler. On est en démocratie. Si eux ne nous donnent pas les signes de démocratie, moi je ne vois pas comment on peut avancer. Alors, si Mobutu n'avait de l'argent qu'en Suisse, là je ne crois pas. Il faut aller dans les îles, à Monaco, dans les îles, à Malte,
les
paradis fiscaux.
Mais il faut aller voir
des comptes chiffrés. Alors, nous avons un gouvernement qui doit mener des enquêtes. Et nous, en tout cas, je suis complètement désolé, c'est un problème d'État, c'est pas à moi de le proposer ici. Mais normalement, il faudra qu'on cherche. Mais quand tu as dit qu'il y a des problèmes au niveau de la famille, je ne pense pas. Moi, je crois que M. Nzang a accepté un poste au niveau du gouvernement. Il doit être solidaire avec le gouvernement et demander à ce que sa famille puisse accepter de revenir au pays dans les meilleures conditions.
Certaines, Pierre Kambinde, en une minute, est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo a l'expertise nécessaire pour rechercher peut-être l'argent qui est caché dans les différents comptes? Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire la part des choses entre l'argent qui appartient réellement au président Mobutu et l'argent qu'il aurait peut-être utilisé? Il a été quand même président de la République pendant plus de 30 ans. Il a aussi amassé quelque chose pour sa famille.
Mais c'est là la grande difficulté. L'expertise aussi, j'affirme que la RDC n'a pas d'expertise. Je crois à la peine toutes ces unités au niveau du niveau tant national qu'international qui travaillent pour l'avancement de l'humanité. L'expertise est là, mais le problème, c'est que cette expertise est utilisée à bon escient. Et cette expertise, on a la volonté nécessaire pour pouvoir rechercher tout cet argent. Effectivement, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Alors, pour vous, pour le gouvernement de la question, pour voir avec son général Joseph Kabila. Il y a une télévision allemande qui avait révélé qu'en Gambie, il y avait beaucoup de milliers d'euros que Mobutu avait acheté dans une banque. À l'époque, je me rappelle le ministre de la Justice, le peuple sur lequel Wani s'était rendu en Gambie, il était rentré depuis lors qu'on n'a rien dit. Est-ce qu'on a fait qu'il relève sur la minute, sur ce nouveau don, tout ça, on n'a rien dit depuis lors. Mais ce qui est là, c'est toute la volonté de la chaîne de fond.
Merci. Au cours de cette semaine, la MONUC s'est dite inquiète du port d'uniformes similaires à celles de l'armée rwandaise par des éléments des brigades mixées fournies par Laurent Kunda. Selon le porte-parole militaire de la MONUC, ces uniformes sont dépourvus d'un signe de nationalité, ce qui crée la confusion au sein des populations du Nord Kivu et alimente ainsi de rumeurs. Le commandant Gabriel Desbros, porte-parole militaire de la MONUC, était au micro de notre consoeur Jocelyne Moussa Opondé.
On a observé en différents points du Nord Kivu que les soldats des brigades mixées, pour une partie d'entre eux, portaient des uniformes bariolés, qui ne sont pas les uniformes des FARDC, et qui sont très proches des uniformes de l'armée rwandaise, voire qui seraient des uniformes de l'armée rwandaise. D'autre part, dans l'entourage des milices qui se trouvent autour de l'ex-général Laurent Nkunda, on trouve de plus en plus d'hommes portant ce type d'uniforme. Et la MONUC s'élève bien évidemment contre le fait que des uniformes étrangers soient portés par des soldats sur le territoire de la République démocratique du Congo pour au moins deux raisons. D'abord parce que ça n'est absolument pas réglementaire et deuxièmement, principalement, parce que la présence d'uniformes étrangers portés par des miliciens ou des soldats est de nature à inquiéter les populations au Nord Kivu.
Adrien Vanda, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Groupe L'Avenir qui émet ici à partir de Kinshasa, mais est également reçu à l'intérieur du pays. Voilà votre réaction par rapport à cette inquiétude de la MONUC.
Bon, je crois que là-dessus, nous ne faisons que constater que Kunda bénéficie autant d'une certaine complicité, si je peux dire, par rapport à notre voisin qui est le Rwanda.
Mais on n'a pas dit que c'est des
venus rwandais. Écoute, je crois que logiquement, si aujourd'hui, j'ai ma tenue que j'ai là, si on commence à le trouver chez le voisin, c'est normal qu'on puisse se dire que tiens, bon, ils ont peut-être un certain deal.
Le même couturier, peut-être.
Le même couturier, pas nécessairement la même couture. Parce que, justement, les tenues, il faut les différencier. Sinon, ça commence à prêter confusion. Or, tout ce qui prête confusion, surtout à l'Est, vous savez que, bon, il y a plusieurs choses qui se disent. Donc, de là, c'est que les gens commencent à dire que, tiens, le Rwanda est en train de revenir en RDC sous une autre forme, il n'y a qu'un pas que tout le monde l'a sauté. Ok ? Donc, cela voulait dire, aujourd'hui, qu'il faut régler définitivement ce problème.
Et comment il faut le régler ?
Écoute, sur le plan international, je crois que Kundera Touaré est l'objet d'un mandat d'arrêt international. Alors, il faut vraiment qu'on puisse régler ça. Parce qu'à chaque fois, c'était non, écoute, c'est un problème qu'il faut régler politiquement, et entre-temps, Kunda, politiquement ou administrativement, militairement, continue à se comporter comme un petit raté. Donc, il faut bien nécessairement qu'il y ait une solution définitive. Voilà.
Emmanuel Makila, votre réaction par rapport à cette inquiétude de la MONUC.
En tout cas, je salue la réaction du ministre, de notre ministre de la Défense, Tikes Diemou, qui hier, à la télévision, avait utilisé un langage de fermeté. Normalement, avec M. Kunda, c'est ce langage qu'il faut utiliser. Il y a deux.
Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit ceci, il y a deux possibilités. Il y a soit la démobilisation, soit de rentrer dans les rangs. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que si on continue avec les messages, je vous dis la vérité, on n'aboutira pas à une bonne chose.
Mais c'est le gouvernement qui avait opté pour ce mixage.
Non, je ne disconviens pas. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. On croyait qu'avec lui, on peut faire confiance. Mais vous savez, tous les randophones, en tout cas, j'ai dit ça avec beaucoup de je pense avec beaucoup de pincettes, ce sont les gens qui n'acceptent pas très souvent l'intégration.
Donc, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui sont dans l'armée nationale. On a aussi des généraux randophones qui commandent certaines régions militaires de ce pays.
Mais quand vous voyez, comme dans le proverbe de chez nous, quand vous voyez un poussin remplir la marmite, ça signifie que sa mère est en dessous. Ce
ça le problème qui est dans ce pays.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que comment Nkunda peut nourrir et prendre la responsabilité, la charge de 8000 personnes. Quand il dit qu'il a 7000 personnes, il a 2000 personnes en réserve. Comment il est à mesure de prendre tout ça en charge? Moi, je crains. Vous avez compris dernièrement ici qu'on a retrouvé parmi, c'est la MONUC qui a donné l'information, parmi les militaires, les gens qui ont été arrêtés, des gens qui étaient des démobilisés au Rwanda. On les a trompés là-bas en leur disant qu'il y a du travail en RDC. Arrivés sur place, on leur a dit non, il faut te servir sur le coup. Vous voyez, c'est qu'il y a une force négatif qui est en train de fonctionner au Rwanda et qui les renvoie. Moi, en tout cas, je félicite le ministre et je l'appuie à ce que qu'il tienne, qu'il reste ferme dans ses bottes.
Nous nous rendons à Tshikapa avec certaines pierres. Kambinji, vous partagez le même point de vue que nos confrères qui sont ici au studio à Kinshasa.
Ben, je suis pas d'accord avec la MONUC, qui fait que aujourd'hui qu'on a trouvé des éléments de Laurent Kunda ou de brigades mixtes qui avaient une tenue similaire à celle de l'armée rwandaise. Mais je ne vois pas les militaires congolais portant des fonctions de l'armée belge dans ce pays. Est-ce que la MONUC est très bien équipée? Il y a eu juste à l'époque, et le président sur la vie au capitaine qui a dit qu'à Bukavu, les gens étaient inquiets de voir les militaires congolais arborant et portant la tenue de l'armée belge.
Et qui commettaient même, certains d'entre eux commettaient même des exactions avec ces tenues belges. Voilà, je vois que Emmanuel Makila ne partage pas votre point de vue. Il y a aussi des militaires congolais qui arborent des tenues avec des drapeaux belges. Donc il n'y a pas que des militaires issus de Rwanda Nkunda.
Oui, en fait c'est un problème. Mais je confirme, comme le porte-parole de la MONUC avait dit, le porte-parole militaire l'avait dit, qu'il y avait un lot d'uniformes en dotation dans les FARDC qui était disponible. Et c'était un problème peut-être des dispatching qui se pose. Mais si ils avaient posé leur problème et qu'on on leur distribuait tout ça, je pense que il n'y aurait pas de problème. Ce problème ne se poserait pas. Mais s'il y a en fait, ici même à la cité, ici moi je vois, j'ai vu un policier qui m'a dit qu'il portait sur ses du 48 et qu'il devait aller les chercher à Camp Kokolo. Au Camp Kokolo, c'est des militaires. Donc il y a un problème, mais c'est pas une raison pour aller porter des uniformes étrangers.
Voilà, Adrien Vanda, il y a quand même un problème pour nos militaires et policiers à se vêtir, quand même il y en a qui se débrouillent.
Oh, je crois que Sofiane a soulevé le problème. Je ne dirais pas non que le problème n'existe pas, c'est vrai. Le problème existe, ces militaires qui portent des tenues provenant de la réserve de l'armée belge. Nous savons d'ailleurs pourquoi, c'est parce que soit ils ont été en formation en Belgique, on connaît tout un lot des militaires venant de là, ou ceux qui sont formés par les Belges ici sur place, à qui on donne ces lots d'uniformes. Il a raison quand il dit qu'il suffit de ne plus arborer plutôt les insignes de l'armée belge et qu'on puisse les remplacer par ceux de l'armée congolaise.
Mais pour
les tenues de militaires de Kunda, là je viens de vous le dire, il s'agit d'un voisin immédiat. Est-ce que les Belges, ce sont nos voisins immédiats par rapport à cette affaire des tenues? Et puis, il y a combien de tenues militaires belges en circulation ici, ou combien de ces militaires qui arborent des tenues qui sont sont pas toujours réglementaires par rapport aux autres, que quand on voit un lot de 1000, 2, 3, 4 000 personnes avoir le même tenue, et on sait que ça, ce sont les tenues du voisin. Donc là, je crois aussi, c'est un autre problème, il faut vraiment pas qu'on puisse l'occulter. Voilà.
Voilà, c'est par le propos de notre confrère Adrien Vanda, journaliste à la radio-télévision Groupe L'Avenir, que nous terminons cette tribune de la presse. Je lui dis merci. Je dis également merci à Emmanuel Makila, rédacteur en chef du journal Le Révélateur, par les ici à Kinshasa. Merci à Tosin Pierre Kambinji, directeur des informations de Radio Zénith, qui intervenait depuis Chikapa au Kasaï Occidental. Merci à Daniel Tambizoni, qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Nadine Foula, qui était à la réalisation, à Guy Manzango, qui était à la mise en onde. Bon week-end sur les antennes de Radio Capi. Au revoir.